Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 2 juin. Bonjour Gilles Gorsman.
Bonjour Valérie, on est en studio depuis 4 jours.
Absolument. Et on reçoit Laurent Bignolas. Bonjour Laurent, bonjour. Merci d'être avec nous.
Et d'être en studio.
Et d'être
service
en studio.
Public.
Oui. Voilà, service public.
Je suis content de fêter ça avec vous.
Voilà.
Moi, je vais télécharger Covid-19, je vais voir si je bipe à cause de vous.
Même pas mal.
À midi.
Même pas mal. Je verrai. Vous n'avez pas eu le Covid finalement?
Ben non, jamais.
Voilà,
j'ai été confiné 2 fois par précaution et par respect pour mes petits camarades.
Ouais, parce que vous reveniez d'Italie, je me souviens. Et
un très beau carnaval de Venise, sans personne, avec que des masques, mais très belle ville. Ouais. Voilà, c'est un petit coup de folie, 3 jours, et puis en rentrant, non.
Non, non, plus
c'est pas possible, vous ne pouvez pas rester là.
On va en reparler avec vous. On sera à 10h30, on va parler télétravail. Vous allez nous raconter aussi comment vous avez télétravaillé, Laurent Bignolas. Et puis, Gilles, le zapping, évidemment. On va commencer avec les audiences. Vous avez regardé quelque chose à la télévision hier? Vous couchez très tôt, Laurent Bignolas?
J'essaye, mais c'est compliqué avec le soleil qui, lui-même, met du temps à se coucher. Voilà, donc, non, puis j'avais 2-3 choses à faire et des préparations d'émissions qui sont un peu attardé, donc finalement j'ai foncé dans un bouquin sur 2 pages et demie et puis
et
après...
Et vous êtes endormi, donc vous n'avez pas regardé, rien regardé du tout hier, mais écoutez, en tête c'était M6 avec le film Red, avec Bruce Willis. Oui, je suis pas très au point sur les
bien
Red.
Marché, Valérie,
Red 1, Red 2, Red 3...
Le retour.
Voilà, le retour, 3 975 000 téléspectateurs, 18,2% de part d'audience pour M6, c'est un très bon score. TF1 plutôt moyen pour Babysitting, 3 541 000 téléspectateurs. France 2, c'était la série américaine Major Crime, que je n'ai pas regardée. Vous l'avez déjà regardée non plus. 2 684 000 téléspectateurs. Et puis la surprise,
C'est Arte,
c'est pas Arte, c'est France 5 avec Max et les Ferrailleurs.
Ah, je parlais de Max et les Ferrailleurs.
Michel Piccoli, Romy Schneider. Ouais. Évidemment, 1 807 000 téléspectateurs, 200 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. C'est vrai qu'on a, besoin de peut-être, de nostalgie, non? Vous avez regardé les films de l'après-midi
Oui, de temps en temps, mais j'avais du boulot dehors, peu, mais j'étais étonné par cette programmation et qui, en fait, a fait du bien, parce que je crois que, comme chacun a changé de rythme dans sa vie, pareil, il avait peut-être moins soif de nouveautés et...
de se replier sur une... Voilà, des valeurs sûres, et avec du De Funès qui a cartonné effectivement à chaque fois. Claudine est en ligne. Bonjour Claudine.
Oui, bonjour Valérie, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour. Alors, vous êtes au point sur les... Oui, et vous allez bien?
Très bien, impeccable, avec un beau soleil, on en profite encore.
Bon, vous allez aller au restaurant, vous allez profiter du déconfinement?
Non, restaurant, le déconfinement, on en a profité, plus ou moins, mais restaurant, pas par... plutôt par manque de moyens que par manque de goût, j'ai envie de dire.
Oui. Voilà. C'est la vraie question qui va se poser, effectivement, et que un grand nombre de restaurateurs qui sont très inquiets de la baisse du pouvoir d'achat, des gens qui vont se retrouver au chômage et qui n'iront pas au restaurant.
Alors, j'ai bien peur qu'effectivement, ça soit le cas, quoi. Malheureusement pour eux, parce que c'est une profession qui travaille beaucoup, et c'est vrai que c'est très, très, très pénalisant.
C'est vrai que les chaînes de télévision font tout un foin du retour des terrasses, et y a beaucoup de gens qui vont pas au restaurant, qui n'y vont jamais.
Évidemment.
Mais c'est vrai que c'est aussi le cœur de la France, les petits bistrots.
C'est notre image. Les terrasses, l'été, il fait beau,
La convivialité. Alors, vous avez regardé quoi, Claudine, vous, hier?
J'ai regardé Red, parce que moi, j'aime beaucoup Bruce. Je suis depuis...
Vous l'appelez Bruce, vous, carrément.
Oui, je l'appelais Bruce. mais je le suis depuis Clair de Lune. Alors, ça fait déjà un petit moment. Et j'aime beaucoup ses rôles avec de l'humour et tout. Alors, c'est un côté très humour américain, bien évidemment.
Mais c'est un blockbuster.
Moi, j'aime bien. Ouais. Voilà, j'aime bien.
Vous aimez bien. Bon, ça vous a diverti et ça vous a fait ça vous a fait du bien.
Oui, il y a un côté sarcastique en plus, dans les pièges, les diards, tout ça. Enfin, je suis assez une inconditionnelle.
Ah oui, vous êtes fan.
Ah oui, une vraie fan.
Je suis fan.
Merci beaucoup, Claudine, de nous avoir appelé. On va tout de suite passer au zapping de Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Eh bien Valérie, vous en parliez avec notre auditrice à minuit, que ce soit à Toulouse, Marseille ou bien Paris, les terrasses et les restaurants, les terrasses que pour Paris, se sont ouvertes. Alors façon nouvelle en Valérie, hein, vous allez entendre avec le décompte avant la première bière ou le premier café.
Il est 59, on va bientôt faire le décompte. On est avec le directeur de cet établissement. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je suis pas sûre qu'ils soient encore minuit d'ailleurs, ils sont un peu en avance. Voilà, la joie qui éclate ici sur cette terrasse de café parisien, évidemment, après plus de 80 jours d'attente. 80 jours sans avoir pu boire ce fameux café en terrasse le matin, ce fameux verre à l'apéro du soir. Après de longues semaines de confinement, évidemment, c'est le soulagement.
Voilà, les terrasses se sont ouvertes.
Vous êtes mort de rire,
Laurent. Ouais, parce qu'à minuit, ils ont pris et l'apéro et le petit-déj, je pense. Ils avaient soif de terrasses, tout simplement.
Et dans plein d'endroits, il y a eu un décompte et les terrasses ont été ouvertes.
J'entendais hier le professeur Hirsch, qui est professeur d'éthique à la PHP, qui disait il faut pas oublier quand même d'être vigilant. C'est pas une libération totale. Et ça,
c'est
j'ai un peu peur que ce déconfinement, l'ouverture des terrasses, la com, bien sûr.
Regardez les scientifiques qui témoignent à chaque fois. Ils disent précaution, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir tout ouvrir, tout déconfiner, etc. Forcément, on a peur de donner un peu de liberté et finalement d'en octroyer un peu trop. Mais il faut avoir confiance.
Oui, il faut aussi vivre, c'est ce qu'on dit. Pardon, Gilles.
Non, au contraire. Allez-y. Bible en main, Donald Trump, au lieu d'apaiser la situation aux États-Unis qui s'embrase suite à l'affaire Floyd, a menacé cette nuit d'utiliser des armes.
Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses habitants, alors je déploierai l'armée des États-Unis et je résoudrai rapidement le problème à leur place.
Face à toute difficulté, nous prendrons le contrôle. Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles.
Et de son côté, le frère de George Floyd, lui, préconisait d'être pacifique et d'utiliser une autre forme d'arme, le bulletin de vote.
Ma famille est une famille pacifique. Ma famille croit en Dieu. Oui, nous sommes bouleversés, mais nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs. Ils ne vont pas bouger, donc faisons ça autrement. Arrêtez de penser que nos voix ne comptent pas et allez voter. Ne votez pas seulement pour le président, mais aussi pour les primaires. Votez pour toutes les élections.
Un truc de dingue quand même, parce que déjà le confinement avait quand même poussé son paroxysme tous les acteurs racistes aux États-Unis, les témoignages se multipliaient, et là on a les paroles d'un président qui sont quand même, certes ce ne sont que des paroles, mais c'est très très dur, on n'a jamais entendu ce langage depuis des dizaines d'années. Alors est-ce qu'il y a l'Amérique des villes et l'Amérique des champs? Oui, certainement, mais ils ont déjà voté, et ils ont déjà apporté leur soutien à leur président qu'ils ont choisi. Qu'est-ce que ça donnera?
Mais à l'époque, ils ne s'étaient pas tous déplacés.
C'est ça.
C'était pas déplacé.
Et pourtant, il y avait une mobilisation.
Oui. Il y a eu une mobilisation, mais c'est vrai que les Afro-Américains votent assez peu, en général. Donc, est-ce qu'il y aura une mobilisation?
Est-ce que ça va changer les choses?
Est-ce qu'ils se retrouvent 60 ans en arrière? Je ne sais pas.
Ouais.
Eh bien, je vais vous faire entendre une autre voix dissonante parmi ceux que ce crime révolte. Celle d'Éric Zemmour, qui hier soir, sur CNews, prenait la défense du policier, d'une certaine manière. Il a été quand même contré par Christine Kelly, qui présente l'émission.
D'abord, dire qui est ce George Floyd. Parce que c'est pas un perdreau de l'année. Il a déjà fait 5 ans de prison pour agression à main armée. Il a été déjà auparavant en prison pour consommation de cocaïne. Donc vous voyez, c'est pas un type comme ça qui se balade dans la rue innocemment.
Le policier non plus, si vous permettez.
Le policier, il a
19 ans,
il était en prison,
et 18
plaintes.
Non, mais 19 ans, faut donner les deux. 19 ans de carrière et 18 plaintes contre lui, 2 lettres de réprimande et 18 relax.
Très bien.
Voilà. Enfin, c'est pas parce qu'on est cocaïné qu'on mérite la mort, hein, entre nous. Valérie, on est sauvé, Laurent Bignolas, on est sauvé. Affida Turner a annoncé sa candidature à la présidence de la République française. Alors attention, ce n'est pas une blague.
Vous savez à qui vous avez affaire, je ne blague jamais. On a 300 000 tweets et 300 000 likes. Et même si vous ne devenez pas présidente, j'aimerais apporter mon soutien aux gens dans la rue, aux gilets jaunes.
Vous pensez que vous pouvez peser sur la prochaine élection en 2022?
Vous savez, mon prix est incommensurable, Cyril Hanouna. Et vous le savez.
Oui, mais alors...
Ma volonté est incroyable. J'aimerais aider le peuple français, surtout les gilets jaunes. Comment on laisse une économie française détruites quand finalement on peut juste leur donner une augmentation à ces ouvriers, à ces gens.
Dit-elle oui. Depuis les États-Unis.
Oui, enfin moi je trouve que les médias lui font une place. Enfin les médias, on n'en parle pas tant que ça d'ailleurs, mais enfin.
Les réseaux sociaux.
Mais c'est qui, enfin sans rire.
Bah, c'est Afida.
Oui.
Enfin Valérie.
Allez-y. Ouais.
En tout cas, moi j'ai hâte de voir Afida Turner en maillot de bain dans les mairies, si jamais elle est élue présidente.
Ah ça y est.
Ça aurait de la gueule quand même.
Ah là oui.
Dans les mairies en photo.
Vous la connaissiez, vous savez, oui. Ouais.
Découvert il n'y a pas très longtemps, j'ai failli employer un mot un peu péjoratif, mais beaucoup. De respect pour tous les gens qui se révoltent, qui ont envie d'agir. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui que dans la politique, on dit relevez vos manches si vous n'êtes pas content du personnel politique d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a des tests qui seront importants très prochainement, compte tenu de cette situation inédite. Je parle de la situation sanitaire, mais un an après aussi, les Gilets jaunes, quand même. Et c'est pas trois personnes, les Gilets jaunes, non plus.
Ouais. Dans Quotidien, coup de gueule de François de Closet. Pour lui, il y a les vieux d'hier et les vieux d'aujourd'hui qui sont un peu trop insouciants.
Moi, je suis un enfant de la guerre. Bon, j'ai traversé la guerre. J'ai pas fait la résistance, tout ça, mais enfin, j'ai connu la guerre, j'ai connu les destructions, j'ai connu la reconstruction. Tandis que cette génération qui a eu à peu près 20 ans en 68, mais elle n'a rien connu, aucune difficulté. Il n'y avait même pas de chômage. Et pendant qu'elle vivait cette période la plus heureuse de l'histoire de France, elle accumulait les dettes, parce qu'elle ne voulait pas faire d'efforts, et puis on passait tout ça aux enfants. Ça vous paraît pas très choquant ?
Non, c'est vrai que François a traversé la guerre à pied et que la génération d'aujourd'hui traverse une période de paix et de prospérité, mais avec un bolide, quoi, et en infraction régulièrement. On va sans doute trop vite, c'est vrai.
Absolument. Il y avait un petit sujet qui était assez marrant, d'ailleurs, sur François de Closet à ses débuts, et on le voyait évoluer. Oui, c'est assez bien fait dans Quotidien.
Et pour finir, eh bien, avec les candidatures de Bigard, d'Afida Turner et autres qui ne vont pas tarder à arriver, on se souvient donc celle de Coluche qui, pour le coup, avait de vrais arguments et déjà, il mettait en cause les médias. C'était dans Quotidien, il y a 2-3 jours.
Et Giscard, quand il n'est pas là, il nous manque. Il faut dire que quand il est là, il nous manque aussi.
De toute façon, c'est une plaisanterie, puisque je me présente au premier tour.
Mais vous allez t'entraîner obligatoirement à ce que ce ne soit plus une plaisanterie.
Bah, c'est grâce à vous que ce n'est pas une plaisanterie. Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier et que vous ne m'ayez pas invité pour m'expliquer sur ce sujet, ce n'était pas sérieux. C'est vous qui rendez l'affaire sérieuse.
Et déjà les journaux et les journalistes mis en cause déjà à l'époque.
Oui, mais lui, c'était sans doute le père fondateur des Gilets jaunes, hein, Coluche. De la même façon qu'on avait Dumont à l'époque aussi sur l'écologie et dont les propos sont encore d'actualité.
Complètement. Retour, Laurent Bignolas, sans transition, à Télématin, donc après une période de confinement assez longue, comme pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période de confinement ?
Alors, j'étais un peu, effectivement, sur la région parisienne, où je ne faisais pas grand-chose, mais j'ai eu la chance d'être confiné au moment où j'étais en famille à la campagne. Donc, j'ai eu pas mal de choses. Regardez,
vous avez des mains.
Il y a de l'acide chlorhydrique, des tas de produits.
Vous avez des mains de travailleurs.
La tronçonneuse et...
Voilà.
J'ai pas perdu mon temps, j'ai surveillé forcément l'actualité. Puis je me suis stressé un peu. Au début, j'ai culpabilisé, hein, vous savez, quand même, d'être absent 2 fois confiné. Après, on arrête l'émission. On se dit comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer. On se sent un peu responsable. Et puis par rapport à tous ceux qui sont obligés de travailler dans des conditions totalement inconnues, nouvelles, et parfois en difficulté d'ailleurs. Maintenant, après, j'ai été un peu stressé parce qu'on a essayé de repartir au plus vite. Ouais. Toute l'équipe, très discrètement, avec beaucoup d'humilité, a essayé de mettre en place les choses pour qu'on puisse redémarrer le plus tôt possible. Mais bon, voilà, on voulait pas prendre le risque d'être obligé de s'arrêter
démarrer,
à nouveau.
De s'arrêter à nouveau. Alors ça ressemble à quoi le redémarrage
Juste avant, vous avez eu peur que de ne pas revenir et qu'ils gardent France Info? Parce que France Info fonctionne
tout.
Bien.
Parce que il y a eu France Info qui était diffusée sur France 2 le matin.
Oui, alors il faut savoir déjà que quand j'étais à France Info, on avait lancé le 6h Info pour précéder Télématin avec William, effectivement pour faire une offre d'information de 6h à 6h30 le matin. Et il était naturel que, pardonnez-moi, je tousse dans le coude. C'est un bobtail dans la gorge. J'ai un bobtail dans la gorge.
On va vous reconfiner, attention.
Et il était évident et naturel finalement que dans une maison où on prône la mutualisation des moyens, on fasse de la mutualisation d'antennes aussi. Il se trouve que la matinale de France Info répondait forcément aux besoins d'informations, comme sur les chaînes info, mais avec le plus, cette ressemblance avec Télématin, avec ses modules, etc. Donc en injectant, parce que pendant cette période-là, les équipes ont travaillé, il y a eu quand même 200 modules propres à Télématin, qui ont été injectés dans cette matinale commune.
Ah, d'accord.
Oui, oui, oui. Ce qui fait qu'on pouvait garder, voilà, un petit aspect Télématin. Mais après, si vous demandez autorisation au CSA, qu'elle est accordée, ouais. Et que après vous revenez, et bien, ah, ben non, finalement, j'ai trois malades de plus, je peux pas redémarrer, ou on est obligé de s'arrêter à nouveau. Bon, bah, on va arrêter la plaisanterie, quoi. Ouais. Donc, on pouvait pas jouer sur ce tableau. Donc, il fallait vraiment être sûr et certain qu'on pouvait redémarrer dans certaines conditions qu'on a pu étudier pour préparer un retour progressif aussi de l'équipe, parce que c'est ce qui fait l'entraînement.
Mais pour reprendre la question de Gilles, il y a un moment où vous, est-ce que vous êtes dit peut-être que la chaîne va décider de garder cette formule-là? Non.
Je disais à la présidente, j'ai jamais été inquiet parce qu'on ne tue pas la poule aux œufs d'or.
Ouais. Et c'est vrai que les audiences de Télématin fonctionnent très bien.
Quand vous en avez 1 sur 4, 25% en moyenne qui viennent regarder ce programme, qui en font la première matinale de France, vous avez un rapport avec les annonces publicitaires, ça rapporte de l'argent.
Bien sûr. Le retour à l'antenne, ça s'est fait comment? Alors, vous avez comment, c'est quoi l'ambiance des studios? Ça a vraiment beaucoup changé.
Vous regardez derrière vous quand vous descendez les escaliers?
Il y a des entrées, des sorties.
Oui, exactement. Il y a des flèches. Alors, je suis pas un pro du fléchage et du sens giratoire, mais je me suis surpris à indiquer aux autres non, certains de mes collègues, non, tu ne rentres pas par là, tu repasses par ici, etc. Et ça s'est passé dans une certaine excitation de
oui, vous
de
étiez content de reprendre,
à l'école.
Bah, oui. De recommencer. Oui.
Bah oui, parce que c'est une ambiance, de travail. Technique.
Et il y a moins de techniciens.
De facto, oui, forcément. Oui, on avait été décimés dès qu'il y a eu un cas de Covid déclaré, testé positif, etc. On se rend compte qu'une personne qui vient travailler à Télématin, elle en rencontre une cinquantaine d'autres. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites tourner la boutique? C'est compliqué. C'est très compliqué. Là, effectivement, il y a des plexiglas, des masques en régie. Il y a moins cette ambiance. Vous savez, on a besoin de communiquer, de lire. Regardez, l'ami qui est derrière sa console son. On a besoin de se regarder. On sait d'un clin d'œil ce qui va se passer, enchaîner, etc. C'est exactement pareil. En studio, c'est pareil par rapport au cadreur. C'est pas une caméra qu'on regarde. Là, oui. Mais sinon, c'est une personne humaine avec un prénom. Et là, d'un seul coup,
c'est plus compliqué.
Il est grand, ce studio.
Bon, moi, je vais revenir quand même sur le panier de crabes qui était Télématin. Je suis désolé, c'est normal.
Non, c'est vrai l'époque des fruits de mer.
C'est vrai que vous avez hérité d'une équipe qui était un peu, qui avait sa politique rien qu'à elle et qui était un peu un sanctuaire dans une mini-république dans la République.
Comme beaucoup d'émissions pendant très longtemps à France Télé, avant que tout
soit. Moi, je trouve que vous avez eu du courage et que Delphine Ernot en a eu aussi de casser ça, parce que c'est vrai qu'il travaillait à l'ancienne, où il partait à quatre en tournage, alors qu'on part maintenant presque tout seul avec un JRI, qu'ils avaient des salaires différents. Comment vous avez vécu cette guerre, de cette baronnie, en fait, et tout ce qui vous est tombé dessus
Oui, alors bon, je voulais mieux que ça tombe sur moi, qui ai un peu d'expérience.
Parce que vous avez été syndicaliste, en plus.
Oui, bien sûr, je crois à la force de la démocratie. J'ai eu beaucoup de peine, effectivement, pour les atteintes, etc. Mais d'un autre côté, je comprenais très bien, sans l'admettre, que parce que malheureux, dans le malaise, etc., d'un changement, on s'en prenne, on veuille trouver quelqu'un d'un peu fragile, etc., pour toucher, pour piquer, parce qu'on est malheureux, parce qu'on perd. Et on perd forcément un peu la phase dès l'instant où on vous supprime l'antenne après 15-20 ans. Surtout quand on le fait avec un certain talent aussi. Donc, moi, ce sont des gens que forcément j'aimais bien. Et je les ai vus vraiment être très malheureux, être durs. Et forcément, du regard s'en prendre à moi parce que j'étais une sorte de symbole. Je passais par là, quoi.
Mais c'est la manière dont ça a été fait. Nous, on avait reçu à l'époque.
J'ai eu plein de gens qui sont passés.
Mais c'est la manière dont ça a été fait, dont on leur a annoncé les choses. C'est la manière de faire. Personne n'est propriétaire de sa case et de son.
La structure n'a pas été cassée. Elle a simplement été. On lui a simplement dit écoutez, voilà, on ne s'est pas occupé de vous pendant des années. Maintenant, c'est un peu votre tour. Il y a des pratiques qui existent au niveau salarial, au niveau mode de travail. Depuis 15-20 ans dans la maison, tout le monde s'y est mis. Pardon, mais c'est à vous maintenant. C'est un peu ça. Alors après, c'est la façon dont ça s'est passé. Parce que effectivement, c'était aussi une équipe qui travaillait.
Une république.
Oui, ce que vous voulez. Mais c'était une communauté qui vivait un peu à part. Les gens ne partageaient pas énormément de temps. Ça se passait tout en studio, dans les couloirs. C'est William qui tenait tout ça avec son administration, son équipe administrative. Et quelques personnes au bureau et au téléphone. des assistants qui calaient des tournages, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui devaient changer dans la méthode.
Donc c'était des privilégiés par rapport aux autres.
C'était des gens qui n'étaient pas dans les modes de travail d'aujourd'hui.
Des autres,
quoi.
Donc c'était des privilégiés. Oui,
Parce que regardez ce qu'il en est aujourd'hui, ces gens-là sont malheureux. Absolument. Donc c'était pas, finalement, ce ne sont pas des privilégiés. Après, il n'y a pas eu une crise interne. Il n'y a pas eu une crise dans l'équipe. Il y a eu une crise entre certains membres de Télématin, les quelques qui sont partis, qui ont quitté parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la direction, l'administration de France Télévisions. Mmh. C'est tout. Mais ceux qui sont restés, avec lesquels on a discuté, etc., qui ont convenu que, bah oui, il fallait changer les choses, bah oui, on pouvait plus faire comme avant, parce que c'est pareil, il y a toujours, décidément, oui. Même à la télé, il y a un avant, un après, on pouvait plus vivre en noir et blanc. Bon, donc alors, on passe à la couleur, et les nouvelles règles sont celles-ci. Il y en a une énorme majorité qui l'a accepté. Il y en a d'autres qui, sachant qu'ils ne pouvaient pas s'habituer, sont partis, ont fait jouer aussi... Pardonnez-moi, mais l'âge, parce qu'ils avaient l'âge de toucher une retraite confortable.
Ça vous a blessé ou pas, cet épisode-là?
Non, je vous dis, ça m'a fait de la peine. Ouais. Il y a des moments, c'était dur, c'était parce qu'on prenait plein la gueule. Hein, vous savez, il y a une presse qui se réjouit, je ne sais pas comment la nommer, mais aujourd'hui,
parce
par exemple...
Vous étiez le bouc émissaire, quand même.
Oui, mais regardez, aujourd'hui, il y a quelques journaux qui s'intéressent à ma vie privée et qui sont capables, depuis 10 jours, de sortir... des informations, de me réinventer une vie. Je préfère en rire, mais ça pourrait être blessant. Donc,
Ça veut dire que vous êtes une star, moi non plus.
Non, mais vous avez trouvé des trucs. Rien de particulier qui regarde les autres. Et là, ils ont, avec des bouts de ficelle, des informations, c'est un travail.
Ouais, ça, c'est la manière de faire.
Mais même pas stagiaire chez moi, quoi. C'est pas grave. Mais donc, ils se sont aussi saisis de tout ça. Donc, c'est les échos qu'on a donnés qui ont à chaque fois été un petit peu durs parce que c'était à répétition, quoi. C'est comme une mitrailleuse un peu folle.
Reparlons de Télématin, de l'équipe qui est avec vous, parce qu'il y a des fidèles, Laura Tenoudji qu'on connaît bien ici, Damien Thévenot, Karine Tachardier, absolument, Philippe Collignon qui est toujours là. Olivia de Lamberterie, Isabelle Martinet,
c'est
Patrice Romden à la revue Presse, voilà. Y aura des nouveautés ou pas? Vous allez faire des changements, des aménagements, des nouvelles rubriques?
J'en profite pour dire qu'elles existent, et que, ces nouvelles rubriques, et qu'il y a eu des changements juste avant que la crise n'explose dans les médias. Et en fait, les changements ont eu lieu parce qu'il y avait déjà une réorientation, ce qui est normal, on s'adapte à la société dont on est le relais, dont on est le média aussi. Donc, vous allez voir les technologies nouvelles, même dans la culture, on l'a séparé, on la traite autrement, on parle des changements de vie. Bref, on s'est adapté à cette société avec des nouveaux visages, des nouvelles chroniques. Là, on n'en a pas parlé à ce moment-là. Là, on n'en a pas parlé. On s'est adapté à la situation dite d'actualité, de cette crise sanitaire et du confinement. Donc, on a su s'adapter. Alors, est-ce que ça sera momentané? Est-ce qu'on continuera? Vous savez, quand on fait vivre une petite communauté qui nous envoie des messages, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais on rêvait quand même de faire vivre un peu cette antenne avec ses amis, ses téléspectateurs. Là, tout naturellement, ils viennent, ils se servent de nous, ils font passer des messages, ils nous donnent des exemples de changement de vie, etc. On a changé, et pourtant on s'appelle toujours Télématin. On s'est adapté, tout simplement.
Télématin, qui a une longévité
incroyable.
Incroyable, non? C'est une des émissions emblématiques.
1985, madame.
Ouais.
Vous parlez toujours avec William Lémergie? Vous échangez avec lui ou il est
non,
plus du on, tout
ça
dans
c'est...
le...
Alors, il revoit beaucoup ses amis, ses anciens chroniqueurs. Moi non, mais il y a eu un passage de relais, je trouve exemplaire, très digne. D'abord, William avait décidé de partir. Ouais. J'ai passé un coup de fil, j'ai dit, écoute, voilà, on m'a proposé, j'ai accepté, je peux te voir, on peut parler. On s'est vu 2-3 fois en 10 jours, même pas une semaine, parce que ça s'est passé très très rapidement, le relais avec le...
Et de toute votre carrière, qu'est-ce qui vous a le plus rendu heureux? Alors vous allez me dire aujourd'hui, évidemment.
Mais le fait est qu'il ne faut pas rêver quand on a changé cette formule, quand on l'a sortie du studio, puis après des murs de l'enceinte périphérique de Paris, et qu'on a pu partir et raconter des histoires au bout du monde. Je me disais, voilà, elle est là, ma vie, c'est de pouvoir raconter ce qui est inaccessible à tant de monde, et c'est le rôle de la télé. Alors aujourd'hui, les médias sont différents. On ne s'intéresse plus au monde de la même façon et avec les mêmes médias. Mais à cette époque-là, je dirais, il était essentiel de parcourir le monde pour... J'en ai des frissons tellement c'était des bons moments.
Votre plus belle rencontre que vous avez eue grâce à cette émission
avec... tout le monde, mes amis Touareg, que je plains en raison de la situation aujourd'hui qui est très difficile, mais je pense à eux tous. Au Vietnam, j'ai retrouvé une amie d'enfance de ma maman qui était à l'école, et ma mère a 92 ans. Bisous, maman. Bonne fête, 3 jours avant. 4.
C'est sa fête
C'est sa fête des mères.
Bonne fête.
Vous pensez, quand on dit fête des mères, c'est le deuxième tour des municipales.
Absolument. Je m'en souvenir, mais je pensais de fête, la sainte. La sainte, je ne sais pas comment elle s'appelle. Écoutez, on l'embrasse, votre maman. Merci, Laurent Bignolas, d'être venu ce matin sur Sud Radio. En studio, le retour en studio. Et puis,
demain, on retourne chez nous.
Et puis, on retourne chez nous. On va parler télétravail. Dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, comment ça se passe le télétravail? Est-ce que c'est une bonne chose? Appelez-nous pour témoigner 0826-300-300 si vous êtes en télétravail. Est-ce que vous avez envie de retourner travailler? Selon les sondages, en gros 8 Français sur 10 n'ont pas envie de retourner travailler. Le télétravail, c'est le monde d'après? On vous pose la question, est-ce qu'on est moins efficace? Est-ce que, au contraire, on est plus efficace? On va en parler ce matin avec nos invités. Antoine Dubosc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président et fondateur de WIMI, spécialiste français du travail collaboratif. Vous fournissez aux autres des solutions justement de télétravail. Donc on va y revenir avec vous. Jean-Claude Delgène, bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, directeur général du cabinet Technologia. Vous avez publié un livre Idées reçues sur le burn-out qui est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Et une voix que vous connaissez bien, Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Bonjour Sophie, vous avez publié quelques jours un article dans Challenge dans lequel vous vous exprimiez sur vos doutes à propos du télétravail. Vous concluiez ce papier avec « Pour pouvoir dire j'aime ma boîte, il ne faut pas qu'elle devienne virtuelle ». Donc commençons peut-être avec vous sur ce que vous constatez dans votre entreprise, dans les entreprises de vos adhérents.
Alors, c'est un sujet qui mérite d'être très nuancé, parce que le télétravail, ça n'existe pas. Il y a des conditions qui sont tellement importantes, un environnement tellement important que ça peut être absolument génial pour quelqu'un, dramatique pour quelqu'un d'autre, inefficace pour un troisième, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a, vous savez, et puis vous avez posé une question très intéressante dès le début, en disant, en mêlant télétravail et est-ce que vous avez envie de retourner travailler ? C'est pas la même question. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de retourner travailler pour d'autres raisons. Il y a des gens qui n'ont pas envie de partir de chez eux. Oui, parce que le télétravail, c'est aussi rester chez soi. Donc, je suis nuancée. Ce que je sais, c'est que d'abord, ça ne peut être que marginal. Ce que je sais, c'est que ça nous a alertés complètement sur les transports qui sont fondamentaux et qui sont dramatiques pour les salariés, en région parisienne en particulier, dans les grandes villes. C'est épouvantable. Mmh. Ailleurs, le travail, ça a moins de sens. Il y a ça, et puis il y a, alors là, je ne vais pas parler de burn-out parce que je vais me faire peut-être reprendre sur le terme, mais… les chefs, entre guillemets, je ne dis pas forcément les patrons, les entrepreneurs, les coordinateurs d'équipe, le responsable, sont au bout du rouleau. Vous ne pouvez pas savoir, moi en particulier, je suis au bout du rouleau au bout de 2 mois et quelques. Je revois mes équipes partiellement aujourd'hui, je suis tellement contente. Et il y avait cette difficulté terrible de donner de l'énergie à distance. Il fallait alors encore, là par exemple, on se voit, on arrive à voir un petit peu les réactions sur les visages. J'ai passé des réunions entières où mes équipes ne mettaient pas de vidéo. Il y en a qui n'avaient pas envie. Il y en a, c'était plutôt sympa. Il y en a une qui me dit une fois, je ne peux pas parce que j'ai mis un masque pour les cheveux. Je dis, écoutez, je voudrais vous voir. Bon. Tout ça, c'est
complexe. C'est ce que vous dites.
C'est complexe. Et puis, c'est usant de donner cette énergie, de contrôler. Oui, il faut contrôler les salariés. Alors, je vais me faire comment. Mais oui, il faut contrôler. Il faut les inciter à bosser. Il faut répéter 10 fois la même chose à 10 personnes différentes parce qu'on a peur. Enfin, bref.
Jean-Claude Delgène, peut-être avec vous sur ce que vient de dire Sophie de Menton. On pense effectivement, quand on pense télétravail, on pense souvent aux salariés, à la facilité difficulté qu'il y a d'être chez soi, de ne plus avoir de transport, mais est-ce qu'il n'y a que des avantages? Et puis on a entendu effectivement sur le management, c'est pas forcément évident.
Alors, si vous voulez, pour moi, je pense qu'il faut poser le problème. Les variables du télétravail avant la crise, pendant la crise et après la crise ne sont pas les mêmes. Avant la crise, il y avait en fait très peu de télétravailleurs en France, puisqu'on était à peu près 1,8 million de personnes qui télétravaillaient, particulièrement des cadres à 70%. Avec la crise et le confinement, on a basculé de 1,8 million à plus de 5 millions, ce qui est beaucoup, hein, multiplié par 3, sans préparation, sans aucune, je dirais, sans équipement, avec des situations, je dirais, très exiguës parfois, des tensions personnelles, des problèmes avec les voisins, des problèmes de connexion, etc. Donc là encore, ça a changé. On a vu par contre que les gens se sont adaptés et qu'il y a eu un effet d'apprentissage massif avec, je dirais, cette nouvelle forme de travail. Et enfin, maintenant vient la suite. Et la suite, effectivement, il y a des avantages. On les voit, moindre empreinte carbone avec le fait qu'il y a moins de déplacements, moins, je dirais, peut-être de fatigue due au transport, comme l'a dit Sophie de Menton, qui sont dans les grandes combinations qui sont très difficiles. Nous, on a fait plusieurs études sur le stress lié au transport en commun et on connaît bien la situation. Certainement aussi, pour certaines personnes, la possibilité de mieux gérer leur temps entre, par exemple, en particulier les femmes, hein, qui ont toujours aujourd'hui, c'est peut-être un constat négatif, mais c'est un constat qu'il faut être fait, la garde des enfants, et donc qui peuvent mieux gérer peut-être leurs contraintes. Et puis peut-être aussi plus de facilité à se concentrer lorsqu'on est dans un open space. Par contre, il faut bien comprendre qu'il y a bon nombre d'inconvénients. Les inconvénients, bon, ils ont été un peu donnés, mais on a une perte de créativité parce que l'individu est avant tout un animal social. Il a besoin des autres, à la fois pour se créer lui-même, pour bénéficier d'une identité professionnelle. Cette perte de créativité, elle est bien réelle. Deuxièmement, il y a un délitement du lien social. Ça a été dit d'une autre manière, mais ça a été dit. Nous avions, nous, réalisé une étude en 2014 qui montrait que quand on était plus de 2 jours par semaine en télétravail, le salarié quittait l'entreprise au bout de 2 ans. Parce qu'il y avait un tel délitement que ça l'éloignait, ça l'appauvrissait, et il y avait un étiolement de l'individu dans cette relation à son entreprise. Par ailleurs, un des risques majeurs qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on appelle la tâcheronisation des tâches. C'est-à-dire qu'on est jugé à ce qu'on livre. On n'est plus jugé à la participation dans un collectif, mais on va être jugé à la manière dont on va rendre un travail. Et donc ça, c'est très flippant, je dirais, parce qu'on revient vers ce qu'il y avait au début du 20e siècle avec les travailleurs à la tâche qui se faisaient livrer en fonction. Moi, dans mes Vosges natales, il y avait la livraison du rotin et du bois pour faire les chaises en début de semaine. Et la fin de semaine, on venait reprendre, c'était mes cousines qui travaillaient ainsi, on venait retrouver les chaises. Et celle qui était payée, c'est celle qui était bien calée. Les autres n'étaient pas payés. Donc, la mensualisation au rythme avec la prévoyance, avec la retraite, avec un système, je dirais, salarial, il faut faire attention à ne pas... Et enfin, dernière chose, pour ne pas être trop long, le risque massif de délocalisation. Que vous puissiez délocaliser, que vous puissiez télétravailler à Lyon ou à Tunis, c'est la même chose. Vous pouvez effectivement avoir demain une hémorragie massive d'emplois. Ça a déjà commencé dans le tertiaire. Il y a beaucoup d'activités qui ont été délocalisées, par exemple en Pologne, dans les pays de l'Est, etc. Mais l'usage massif du télétravail a montré aux employeurs, a montré aux décideurs que l'on pouvait très bien télétravailler à distance et donc jouer aussi sur les écarts de salaire.
Vous réagirez, Sophie, mais je voudrais qu'on entende. Oui, les call centers, absolument, mais qui existent depuis, c'est le principe même, par téléphone, on peut être n'importe où. Antoine Dubosc, pour vous, le télétravail, c'est l'avenir?
Alors, il y a une tendance de fond pour le télétravail qui a commencé bien avant... la crise qui a été effectivement, vous parliez d'un x3, c'est à peu près ce qu'on a observé aussi, nous, dans les usages sur nos systèmes. Ça a été multiplié par 3, mais il faut dire que c'est une tendance de fond. Et cette tendance de fond, elle est liée à beaucoup de facteurs. Certains ont été évoqués, mais il y a des facteurs sans doute négatifs. Sur les délocalisations, on n'a pas attendu le télétravail pour engager des délocalisations. En revanche, il y a aussi, il faut le dire aussi, une attente et une demande de la part d'un certain nombre de salariés et de cadres, en particulier, c'est vrai, mais aussi de salariés et aussi d'indépendants, parce qu'on ne parle pas beaucoup des indépendants, mais c'est une catégorie de personnes qui travaillent et qui sont de plus en plus nombreuses, pour des formes de liberté et qui sont de l'ordre du télétravail choisi. Et qui ne sont pas forcément du télétravail intégral. D'ailleurs, quand on regarde les études dans, un peu plus dans le détail, en fait, si on demande aux personnes quel est l'idéal, ben vous avez ceux qui disent non, moi je veux la vie de bureau habituelle, mais il y en a quand même une proportion importante qui préférerait avoir un ou deux jours ou trois jours. Le mode est à autour de deux jours. Et l'alternative entre les deux, et je crois que c'est les deux extrêmes en fait qui sont.
Qui ne sont pas bons.
Il faut pas qu'on caricature. Vous l'avez dit en introduction, il faut être nuancé. Les deux extrêmes, en réalité, le travail intégral au bureau ou même au laboratoire. Nous, on a dans nos activités, on a aussi une autre dans le groupe, une autre activité qui est un laboratoire de recherche développement en biologie. Bon, bah là, il y a une présence nécessaire au laboratoire. On peut pas le faire. Eh bien, en fait, on a fait quelque chose où on a laissé la liberté aux collaborateurs de s'organiser. Eh bien, ils ont organisé des tours, des rotations, et en fait, chacun en fonction aussi de ses préférences personnelles. On a une jeune femme qui est enceinte, elle est plus sensible à la question de la santé, elle a préféré un mode où elle est davantage à la maison, elle vient au laboratoire lorsque c'est vraiment nécessaire, sur des productions qui l'imposent.
Mmh. Oui.
D'autres collaborateurs qui ont fait des choix différents, et donc c'est le télétravail, c'est aussi une question de choisir plutôt que imposer. Alors là, pendant la crise, ça a été imposé pour ceux qui l'ont vécu, mais il y a aussi une tendance de fond et qui correspond plus au télétravail, à une volonté de télétravail choisi.
Avec le problème, c'est que les salariés, si vous permettez, ceux qui veulent, ils ne veulent plus revenir. Enfin, je veux dire, ils vous disent « Ah non, je veux travailler en télétravail. Est-ce que j'ai été bon ?» Alors, vous êtes obligé de dire, et d'ailleurs, coup de chapeau à ceux qui ont bossé. Moi, je sais que dans mon équipe, etc., ils ont vraiment bossé. Maintenant, il y a forcément la tendance, on s'occupe quand même deux minutes du petit qui envoie ses leçons ou qui rentre de classe. Enfin, c'est très compliqué. Il faut des gens structurés, il faut des gens très impliqués professionnellement.
Mais ce que vient de dire Antoine Dubosc me semble tomber sous le sens. C'est-à-dire que ça ne peut pas être les deux extrêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une voie médiane à trouver ? On va y revenir dans un instant. On marque une toute petite pause. Et si vous voulez témoigner, 0826-300-300, ce que vous pensez du télétravail, on vous attend sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi à 11h, nous commenterons l'actualité. Nous parlons du télétravail. De plus en plus de Français ont envie de télétravailler. On vient de l'entendre, il faut être toutefois nuancé. Les extrêmes, et ça me semble être assez juste comme vision, celle d'Antoine Dubosc, ne sont pas forcément très bons. Peut-être qu'il faut trouver une forme médiane, mais en tout cas, Antoine Dubosc, vous nous disiez que c'était une tendance tout de même, une tendance assez lourde. Antoine Dubosc, qui est donc président et fondateur de WIMI, spécialiste français du travail collaboratif, Jean-Claude Delgène, directeur général du cabinet Technologia, et Sophie Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Jean-Claude Delgène, je crois que vous vouliez réagir à ce qu'avait dit Antoine Dubosc.
Oui, je pense qu'il y a différentes études, en particulier, il y a une étude récente en Chine qui a montré que sur 500 volontaires, au bout d'un certain temps, il y avait un grand nombre de ceux-ci qui voulaient revenir au travail. Donc, il faut réguler. Je pense qu'il faut permettre peut-être l'extension du télétravail à d'autres catégories de la population, autres que les cadres, mais qu'il faut limiter à deux jours par semaine le bénéfice de cette formule. Pourquoi ? Parce que sinon, on arrive à disqualifier, malgré eux, parfois, un certain nombre de personnes qui se mettent dans un confort qui peut être très grave pour eux, pour elles. Pourquoi ? Parce qu'à terme, elles vont ne plus bénéficier des informations qu'on trouve sur le lieu de travail, elles ne se formeront plus au contact de leurs collègues, elles vont s'assécher. Et pour moi, je propose toujours le télétravail. S'il doit se mettre en place, il doit y avoir une négociation entre les dirigeants et entre les élus du personnel pour réguler, pour éviter justement d'aller vers des situations de trop grand confort où les gens sont au final largués du peloton et où en fait ils en sont les premières victimes. Pour l'entreprise, c'est pareil. l'entreprise, il faut effectivement un contrôle. On a vu, par exemple, durant la période de confinement, que certains salariés étaient complètement désaxés, travaillaient de nuit, n'étaient plus aux réunions de jour, etc. Donc, quand les gens sont coupés de la dynamique globale du collectif, je dirais, qui les porte, eh bien, ils peuvent aller parfois dans des situations, je dirais, un peu préjudiciables pour leur santé. Donc, le fait d'avoir un contrôle, le fait d'être dans un collectif ordonné, le fait d'avoir une régulation par la négociation avec les partenaires sociaux, je pense que c'est la seule manière de procéder pour avoir, y compris deux dernières petites choses. Il est nécessaire aussi de veiller à la sécurité, parce que quand vous êtes en télétravail, vous pouvez très souvent être, on peut s'accaparer vos données, donc il faut avoir
des outils sécurisés. Très sécurisés.
Dernier aspect, je laisserai la parole après, mais la question aussi du coût du télétravail, parce que là, par exemple, on a balancé tout le monde en télétravail, mais les gens ont dû parfois s'équiper en ordinateur, les gens ont dû acheter des fournitures, des ramettes, etc. Ils occupent un espace de leur vie, de leur lieu personnel pour télétravailler. Enfin, il y a eu énormément de bonne volonté. Après, il faut réguler, il faut retrouver des accords qui permettent de peut-être permettre aux salariés d'être récompensés, mais voire aussi dédommagés des investissements qu'ils ont pu faire, et qu'on puisse retrouver une normalité. Mais la normalité, c'est pas plus de 2 jours par semaine. Et je dirais simplement, pour finir aux uns et aux autres, il faut apprendre à se méfier de soi-même au moins un peu. La facilité n'est pas forcément la bonne chose. Sur le long terme, attention.
Il y a un mode d'emploi, c'est ce qu'on entend, possible. C'est qu'il y a un mode d'emploi. Juste un mot, un auditeur qui nous dit combien de couples, de familles se sont créés sur les lieux de travail. Et oui, ça c'est l'une des conséquences. Si on n'a plus de collègues à rencontrer, ça va être autre chose.
Et combien de divorces avec le télétravail?
Oui, aussi. Alors Sophie de Menton.
Oui, il y a un point aussi qui est important, parce que je connais bien les tendances françaises. D'abord, le président de la République en avait déjà parlé. Ce qui me paraît inimaginable, c'est, pardon, mais le droit au télétravail, parce qu'on va y venir. Déjà, il avait expliqué que les salariés avaient droit de demander de travailler chez eux. Je pense que, vous l'avez dit, c'est une question de négociation. Il est inimaginable que l'État se mêle de dire il y a un droit au télétravail. Je veux dire, non, l'entreprise, elle s'organise comme elle peut. Ensuite de ça, il y a déjà les problèmes. On a une de nos entreprises, un salarié en télétravail, il a voulu brancher un truc, il a renversé sa lampe, il s'est brûlé, il a failli s'électrocuter, etc. Accident de travail chez soi? Non. On ne sait pas. Ensuite de ça, vous avez, oui, d'accord, mais moi j'utilise une partie de mon appartement, ça sert, etc. Est-ce que j'ai un dédommagement? Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il en est sur les primes de transport? Est-ce qu'on les supprime? Les chèques déjeuner? Ah ben les chèques déjeuner. Alors d'ailleurs, on a vu aujourd'hui qu'il y avait une mesure qui était mise en place où on peut utiliser ces chèques déjeuner massivement au restaurant, etc. Donc il va y avoir des problèmes qui vont naître. Et puis, vous l'avez dit très justement, je pense qu'il faut une vision de soi-même, une autonomie, une capacité et des qualités qui ne sont pas forcément partagées, ce qui ne veut pas dire que les gens pas capables de travailler à distance ne sont pas bons du tout. C'est spécial.
Oui. Antoine Dubosc, comment vous voyez les choses, vous, puisque vous êtes spécialiste, encore une fois, de cette nouvelle manière de travailler? Vous avez signé une tribune dans l'Opinion dans laquelle vous évoquez les difficultés auxquelles sera confrontée l'administration, justement, qui n'est pas équipée pour ça. Mais comment ça peut se mettre en place, un télétravail intelligent?
Bah écoutez, oui, c'est ça la question. C'est le télétravail intelligent. Alors, je passe sur les questions de régulation. Je pense qu'il y a des dangers liés au télétravail. C'est tout à fait juste. Il va falloir y veiller. Mais il y a aussi des dangers liés au travail au bureau. On connaît les problématiques de harcèlement, notamment auxquelles ont dû faire face beaucoup de salariés.
Oui, enfin, pardon de vous interrompre, mais le harcèlement numérique existe aussi. C'est-à-dire qu'avec le télétravail, vous êtes disponible tout le temps.
Oui, ne stigmatisons pas une forme particulière de travail. C'en est une nouvelle qui émerge et qui va avoir sa place. Et il faudra effectivement veiller à éviter des abus.
Si il ne faut pas se rencontrer à cause du harcèlement, dans la vie, on n'en sort plus. Il y a déjà la rue, on ne peut pas être sifflé.
Laissez terminer, Antoine Dubosc.
Voilà, pour répondre à votre question, dans quelles conditions ça peut se passer? Ça peut se passer bien. Écoutez, nous, ce qu'on voit, c'est que j'ai beaucoup de témoignages, qu'on en a tous eu à titre privé, de personnes qui ont dit, moi, j'ai demandé à mon employeur la possibilité d'avoir un jour, 2 jours, 3 jours, d'avoir un peu de flexibilité dans mon organisation de travail personnel et de travailler à la maison, et ça avant la crise. Et beaucoup se sont vus refuser. Et la raison pour laquelle les dirigeants ou les chefs, pour parler de manière générale, refusaient, c'est parce que, en réalité, on ne le dit pas, mais c'est parce qu'on ne faisait pas confiance. Parce qu'on disait, télétravail, ça veut dire travailler en regardant la télé. Ouais. Et en fait, non. Et ce qu'ont découvert beaucoup de cadres, beaucoup de managers qui ont fait ces témoignages et qu'ils ont été eux-mêmes surpris, ben en fait, ça marche. Ouais. Dans beaucoup de cas, ça fonctionne.
Ouais, c'est vrai.
Et là, il y a une question numéro un, c'est la confiance. Et ce qu'on voit, nous, alors, dans notre activité, on est dit d'une plateforme numérique qui permet de travailler en mode projet. Un mode projet, c'est qu'on responsabilise un peu les gens. Ça veut dire qu'il faut travailler de manière différente. On fait un peu confiance au bureau. On s'est dit, on va pouvoir regarder si la personne travaille. Le sujet, ensuite, c'est plus de regarder si la personne travaille. C'est si la personne, elle s'insère dans l'équipe, si elle collabore, si elle est créative, si le projet avance, si elle fait avancer le projet. Ça suppose de la confiance. Ça suppose, par exemple, de partager des données davantage. Oui. Ça suppose de partager, de donner à chaque équipe une liberté de s'organiser, de s'auto-organiser. C'est un petit peu moins vertical. C'est ce qu'on appelle, nous, le travail ouvert. Et ça suppose aussi, enfin, il y a un troisième critère, c'est ça suppose avoir des bons outils. Ça passe par une bonne connexion, mais pas seulement. C'est pas seulement la vidéoconf. Il y a des outils aujourd'hui pour travailler en mode projet, et notamment, et là, je plaide un petit peu pour ma paroisse, mais aussi pour la France, il y a des outils français.
Oui, c'est ce que vous dites, qu'il faut que la French Tech se développe.
La French Tech est là, et effectivement, et nous, on appelle les grandes entreprises et l'État à prendre en compte davantage ça, parce que ça sert à rien de donner des emplois uniquement à des Américains aujourd'hui qui ont leurs problématiques. Enfin, nous, on a un écosystème, on a une industrie qui est très, très…
qui peut être performante et opérationnelle. Oui. Jean-Claude Delgen, en termes de burn-out, de harcèlement, enfin toutes ces questions que pose parfois le travail au bureau.
Bah écoutez, le harcèlement, on l'a constaté d'ailleurs dans la période. Nous, on a fait une grosse étude qu'on a réalisée avec le magazine Challenge, France Info et France 2, qui a montré que auprès de 2600 élus du personnel, il y avait effectivement eu des problématiques de demandes professionnelles démesurées par le biais du télétravail, donc qui étaient stigmatisées par à peu près 30% des répondants. Donc le harcèlement, en fait, vient souvent dans ce cas-là de personnes qui ne sont pas formées au télétravail et qui vont être dans une logique de contrôle tatillon à distance de ce qui est fait. Hein, donc avec,
cas,
par exemple, un contrôle toutes les demi-journées, ou alors on va donner une masse de travail à faire énorme pour pouvoir être sûr d'occuper la personne. Donc
c'est pas là, faux, c'est fois, pas faux.
Le manque c'est de confiance qui était, mis en avant.
Ouais.
Je voulais simplement dire une chose sur l'étude chinoise. L'étude chinoise est très intéressante parce qu'elle a montré que pendant une longue période, les gens étaient beaucoup plus productifs, mais que en dépit de cette efficacité, de cette productivité, ils bénéficiaient de moins de promotions que ceux qui étaient en présentiel. Pourquoi ? Parce que loin des yeux, loin du cœur, et la promotion, elle vous échappe. Donc là encore, moi je suis pour le télétravail, mais à petite dose, pour ne pas mettre les gens en difficulté et ne pas les obliger, y compris à quitter l'entreprise. Parce que quand vous n'êtes plus reconnu, quand vous êtes en délitement du lien social, quand vous êtes moins formé, quand vous avez moins d'information, en général, vous partez. Et les entreprises n'ont pas intérêt à perdre les compétences stratégiques qui sont celles-ci, les compétences parfois critiques. Parce que quelqu'un
Le télétravail est un moyen de les garder.
On aurait pu continuer longtemps. En tout cas, vous êtes à peu près sur le même mode, c'est-à-dire les extrêmes, encore une fois, ne sont pas bons. Il faut modérer, il faut que ce soit adapté et à l'entreprise et aux salariés et le faire de façon intelligente. Pardon Sophie, on est obligé de rendre l'antenne, mais on vous retrouvera sur ce sujet certainement dans d'autres émissions. Merci à tous les trois. Dans un instant, on se retrouve sur Sud Radio pour la suite du 10h midi et le débat d'actualité. À tout de suite.